Et la chanson avait pour titre Gaspésie, c'est Irvin Blais qui chantait, tête d'affiche dans les grands festivals et salles de spectacle du Québec et du Canada depuis près de deux décennies. C'est en 2003 qu'Irvin présentait son premier album. Rapidement, le public s'est reconnu à travers ses textes qui témoignent des réalités quotidiennes et d'histoires vécues qui touchent en plein cœur. Irvin Blais, qui était au Festival des rythmes du monde à Saguenay dernièrement et qui sera à Rimouski le 27 août et à l'île aux Coudres au début septembre, les 3 et 4 septembre, et au Festival de Saint-Tite le 9 septembre. Eh bien, parlant de Gaspésie, on s'intéresse aux contes et aux légendes de ce coin de pays avec Patrick Dubois, fondateur de la Petite Grève à Carleton-sur-Mer. Bonjour!
Bonjour, ça va bien?
Ah, très bien, et vous-même, j'imagine que comment, hein, ça peut pas aller mal dans un si beau coin de pays.
Ah non, on est bien, puis il fait beau, puis il y a de la vie.
Effectivement, il y a pas mal de touristes aussi, je pense bien. Patrick Dubois, vous êtes conteur. Enfin, être conteur, en fait, c'est quand même s'intéresser au passé, c'est aimer raconter, c'est l'art de transmettre une histoire. Enfin, depuis quand vous savez que vous avez ce talent de conteur?
Depuis que j'ai commencé à le faire. c'était pas prémédité, puis en m'en venant à Gaspésie en 2012, je me cherchais un peu une manière là, de m'occuper puis de gagner ma vie. Puis moi, j'avais un parcours en improvisation du temps que j'étais à Québec avant. Et puis, je me disais, bon, ben tiens, il y a du tourisme en Gaspésie, pourquoi pas faire une petite animation, compter. Et puis, je suis rentré là-dedans un peu par hasard et finalement, ça a été un grand coup de foudre, là.
Eh oui, c'est ça. Mais là, l'idée comme ça, d'abord d'atterrir à Carleton-sur-Mer, ensuite de décider de faire ce genre d'activité-là sur la grève avec, en fait, un feu de camp et puis d'amener les gens à vous écouter comme ça, à raconter toutes sortes d'histoires, c'est quand même fascinant.
Oui, ben je pense que je me suis fait prendre au jeu comme beaucoup de monde dans leur lieu de vacances, peu importe ce soit lequel, à un moment donné, ben moi je me suis dit, mais pourquoi c'est ce lieu-là qui pour moi est un paradis, pourquoi je le garde pour ma retraite ou pour le peu de vacances que je me donne dans une année, pourquoi est-ce que je m'établis pas là puis que j'en fais pas mon quotidien? Et c'est le pari que j'ai fait en m'en venant ici et puis de compter sur le bord du feu, ben pour moi, venir passer des vacances en Gaspésie, c'était de m'asseoir sur le bord d'un feu, sur le bord de la mer, c'était ce calme-là, et j'avais envie de faire goûter à cette version-là de vacances gaspésiennes aux touristes. Alors, le conte devenait un peu un prétexte pour forcer les gens à s'asseoir puis à ralentir un brin, et ça a vraiment été un succès, là, le mélange du conte et du tour de feu à bord de l'eau, là. Bien sûr, c'est comme une image qu'on a tout en tête, là, se faire compter
oui,
des histoires sur le bord d'un feu. Et ça fonctionne vraiment bien. Là, tu sais, les soirées de pluie, par exemple, je fais pas ça sur le bord du feu et je vois vraiment que ça attire beaucoup moins de monde. Donc, ça me dit que c'est un élément vraiment important du succès du spectacle. Là, c'est l'environnement extérieur avec des couchers de soleil incroyables puis des ciels étoilés. Là.
Ah oui, parce que c'est universel de toute façon. Autour d'un feu, on chante soit des chansons, on raconte des histoires. Alors, ça peut être partout dans le monde, que ce soit au bord de la mer, dans un désert, en fait. On a toutes sortes de contextes pour faire ça. Mais en fait, c'est bien beau, bien sûr, avoir ce talent d'improvisateur, mais vous les avez pris où, vos contes?
C'est des histoires qu'on m'a racontées. C'est ce que j'essaie de prioriser là, pour être vraiment dans la tradition orale. Donc, des trucs que ça peut être des anecdotes que certaines personnes m'ont partagées ou vraiment des vieilles histoires traditionnelles qui ont été transmises aux bouche-oreille. Puis j'essaie de les recevoir comme ça puis de les repartager de la sorte. Et puis, bien sûr, ben j'y mets ma petite touche. Moi, ils ont une espèce de destination qui est claire, ces histoires-là, c'est de faire un spectacle d'une heure. Donc, des fois, on m'a raconté une histoire en 5 minutes. Alors, faut que je tricote un petit peu pour faire à donner tout ça, mais des fois, là, simplement en développant un personnage puis en les campant dans un univers gaspésien, là, ça suffit à étirer la sauce puis à y donner une nouvelle substance en gardant quand même le cœur, le canevas de cette histoire-là, mais dans un espèce de milieu maritime gaspésien des années 1800.
Ah, c'est ça, parce qu'en fait, vous avez adapté toutes sortes d'histoires, ce ne sont pas que des histoires de la Gaspésie, de l'époque.
Non, exact. En fait, il y en a très, très peu là, qui viennent vraiment d'ici, là. Je vous dirais qu'on n'a pas, on porte pas de manière orale un gros bagage. Tu sais, il n'y a pas grand famille qui vont dire, ah, tiens, nous, on possède une légende gaspésienne, puis on va te la raconter. On a des anecdotes, on a des chansons peut-être, mais des légendes, des contes, un peu moins. Et ça a tout, sinon, ça a tout été mis à l'écrit Et une fois que c'est à l'écrit, on dirait qu'on perd l'urgence de les porter puis de se les raconter, comme si on avait une mémoire qui nous garantissait ça. Alors, les contes et les légendes gaspésiennes dorment dans des bibliothèques au lieu d'être dites, là.
Ah, je comprends, parce que bon, c'est la tradition orale, bien sûr. On a des conteurs célèbres au Québec, hein. On pense à Michel Faubert, on a eu Alain Lamontagne, on pense bien sûr à Fred Pellerin. Mais Patrick Dubois, comment on réussit à se démarquer justement dans cet univers du conte?
Ben, je pense qu'on n'a pas nécessairement à se démarquer non plus. J'ai pas à être plus grand que qui que ce soit. C'est juste en tenant le fort depuis 10 ans à Carleton, ma petite activité est là, et puis c'est un rendez-vous pour beaucoup de gens de passage qui se promettent de revenir d'année en année. Puis c'est souvent un souvenir marquant des vacances de beaucoup de personnes, parce qu'on a des vacances souvent qui sont un peu là en sixième vitesse, où on a une checklist et puis on veut vraiment visiter chaque chose, et puis on passe, on prend des photos puis on repart. Mais tout d'un coup, sur le bord du feu, j'invite les gens justement à mettre leur téléphone de côté puis juste se laisser aller et rencontrer leurs voisins. Serrez la main de votre voisin de gauche puis de droite, même si vous ne le connaissez pas, c'est le temps. Et juste ça vient déloger quelque chose, certaines habitudes, puis je pense que ça vient nourrir beaucoup l'expérience des gens. Et donc, j'ai pas à me démarquer à travers les compteurs. Je pense que je vise plutôt à me démarquer en tant qu'activité touristique. Et ça me sert très, très bien. Là, il y a des belles assistances. Souvent, c'est comme une centaine de personnes par soir autour d'un feu, ce qui
ah ben
m'impressionne toujours, là.
Vous avez commencé petit, effectivement. Vous pouviez avoir peut-être un public de 3-4 personnes au début, mais effectivement, ça s'est mis à gonfler, ça, l'intérêt pour vos comptes. Enfin, c'est vraiment... Et de toute façon, l'activité en soi, elle est absolument charmante. Mais diriez-vous que, bon, c'est sûr que là, l'attrait pour le conte, la tradition orale, vous savez, on redécouvre beaucoup, bon, la culture autochtone. Alors, il y a beaucoup de transmission orale. Je pense qu'aussi, je pense que les gens sont encore plus sensibles au conte, effectivement, depuis plusieurs années.
Oui, il est vraiment remis à la page, là, puis c'est sûr que on donne de plus en plus de place à la culture. Bon, ici, exemple, c'est les Mi'kmaq qui sont là, puis je pense qu'il y a une place qui est consciente, qui est faite, et des spectacles de contes, ou du moins des moments contés, ben c'est une belle manière de partager cette culture-là. Fait que je pense qu'on en entend de plus en plus, et il y a de la demande pour ça. Et je pense que le conte en général a gagné l'avant-scène plus que jamais, j'oserais dire.
C'est ça.
Entre autres, c'est sûr que Fred Pellerin, je pense, il a été pour beaucoup en amenant ça pour des grandes scènes. Et puis ça devient une référence. Et tout d'un coup, certaines personnes s'intéressent, si ça peut leur avoir ouvert l'appétit puis la curiosité. Certaines personnes, tout d'un coup, après avoir été voir Fred Pellerin, réalisent « Hey, j'aime le conte. Ben, je vais aller en voir d'autres. » Et puis là, ils découvrent qu'il y a toutes sortes de styles de conteurs. Et puis, c'est pas tout de mon genre. OK, bon, ben eux, c'est plus... OK, j'aime mieux l'interaction avec le public, ou j'aime mieux quand c'est lyrique, poétique. Et puis là, ils découvrent tout l'éventail de conteurs possibles.
C'est ça. Enfin, parce que oui, chacun a sa façon de raconter, bien sûr. Alors, des histoires de toutes sortes, des histoires de pêcheurs, de diables. Et puis vous êtes aussi allé un petit peu, vous parlez de quêteux, parce que, qu'est-ce que vous entendez justement par quêteux? En fait, vous parlez de ces gens peut-être qui ont toutes sortes d'histoires aussi à raconter, qui sont au fond dans la tradition orale.
Ben exact, ça en a été des grands porteurs. Tout le monde au Québec qui a un certain âge se souvient des quêteux, qui étaient des espèces de vagabonds qui se promenaient de porte en porte et qui demandaient le gîte et le couvert en échange de leurs dons. Et puis ils pouvaient avoir toutes sortes de dons, dont celui de conteur. Eux ont porté nos histoires longtemps, les ont fait voyager d'une communauté à une autre, rapportaient des nouvelles également. Et puis moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré. Les quêteux sont souvent dans mes histoires. C'est souvent des espèces de guides quand il y a des embûches et que les personnages savent pas trop où aller. Là, ben rapidement, on prend un quêteux pour se déstocker, comme on dit ici, là, se défendre. Et puis, ben moi, dans ma pratique de conte, je me suis intéressé beaucoup aux quêteux en expérimentant leur voyage. Donc, je suis parti à travers le Québec en autostop, en allant compter chez des inconnus en échange du gîte et du couvert. J'avais envie de vivre cette aventure-là pour comprendre un peu mieux comment interagissaient ces quêteux-là, comment ils vivaient leur Québec, comment ils vivaient le territoire sur lequel ils se déployaient. Et ça m'a même permis de rencontrer quelqu'un d'autre qui faisait ce genre de tournée-là, dont qui était breton. Alors, il y a une couple d'années, juste avant la COVID, je suis parti en Bretagne pour quêter.
Ah,
pour
mais c'est
aller
spécial.
Vraiment cogner aux portes d'inconnus. Donc, c'est une manière de voyager,
oui.
De porter le conte et de me faire porter par le conte. Donc, ça me plaisait beaucoup.
Alors, vous l'avez vraiment vous-même intégré, en fait, c'est-à-dire que dans votre façon de vivre, parce que c'est ça, vous avez opté pour un mode de vie aussi, bon, axé sur la simplicité volontaire. Ça fait toute partie de votre démarche, ça.
Oui, on peut appeler ça de la simplicité volontaire. En fait, je me suis débarrassé de ce qui était involontaire, puis j'ai gardé ce qui était essentiel pour moi, là. Donc, on allège un peu nos bagages des fois comme ça. Et puis, ça m'a permis toutes sortes d'expériences, puis de vraiment faire au lieu d'acheter. Donc, être un peu moins dans la consommation. C'était entre autres pour ça là, que j'avais envie de vivre l'aventure des quêteux. J'avais pas juste envie d'en parler d'une manière un peu superficielle, sans trop savoir ce que c'était, mais vraiment là, d'avoir mon propre bagage là-dedans et de porter ça d'une manière beaucoup plus intégrée en moi, là.
C'est ça. Donc, soir après soir, vos contes, évidemment, ils peuvent aussi se transformer parce que vous dites une belle phrase, vous dites, parce que si c'était toujours pareil, ce serait pas pareil.
Exact. Moi-même, bon, j'ai reçu mes histoires de manière orale, alors j'essaie de pas les noter nulle part, sinon dans ma mémoire. Et puis, bien sûr, ma mémoire me joue des tours. Des fois, il y a des petits éléments qui
Ah
disparaissent.
ouais.
Alors, ça me force un peu à laisser mes contes vivre. Et tu sais, je les raconte principalement l'été. Donc, je mets ça sur pause pour tout l'hiver. Donc, à l'été suivant, quand je retrouve mes histoires, là, ils ont 8 mois, 10 mois avant que c'est la dernière fois que je les ai racontées. Donc, ils sont un peu loin et je pense que ça permet de me rattacher à ce qui était essentiel dans cette histoire-là parce que c'est ce dont je me souviens.
Ah,
Alors, ça
d'accord, ouais.
nettoie un peu les histoires et ça fait perdurer la tradition orale où les
Exact.
choses s'adaptent, évoluent puis continuent de vivre.
Et puis bon, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Bref, il y a de l'humour, de la poésie, bien sûr. Alors, enfin, c'est un spectacle autour de 60 minutes à peu près où il y a de l'interaction avec le public autour du feu. C'est magnifique. Alors là, on peut quand même assister à ces spectacles encore pour un petit bout de temps, là.
Ben oui, mon été achève, donc il reste jusqu'au 29 août et moi je suis là du vendredi au lundi, donc inclusivement, donc 4 soirs semaine, la grosse fin de semaine. Et puis donc c'est la dernière semaine pour en profiter, là, ce sera la fin de semaine prochaine. Sinon, on se dit à l'an prochain.
Ah, d'accord. Avec votre belle mémoire. Spectacle de contes, La Petite Grève à Carleton-sur-Mer. On rencontre Patrick Dubois. Ben, merci bien d'être venu nous en parler. On vous souhaite une bonne fin d'été et puis on vous retrouve l'année prochaine.
Merci beaucoup, au plaisir.
Au plaisir, oui.